l'Ancien Testament. Mon père, il est un grand fan de l'Ancien Testament. Et donc, souvent, quand il nous racontait les histoires, il racontait toujours les choses de l'Ancien Testament. Et c'est important. Parfois, on se perd un peu dans les histoires de l'Ancien Testament parce que ça semble tellement éloigné d'aujourd'hui. Parfois, on a du mal à repérer les choses qui sont actuelles pour nous. Parce que la Bible nous dit que tout ce qu'on trouve ici dedans, c'est utile pour nous. Donc forcément, dans ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui, il y a quelque chose d'utile pour nous. Et je vais planter le décor un peu pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cette période-là. Imaginez-vous un instant, vous êtes environ 850 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Vous êtes dans un pays chaud. Donc, pas comme aujourd'hui. Et le royaume d'Israël, qui avait été uni sous le roi David, sous le roi Salomon, maintenant, on est 100 ans après et tout s'est éclaté. Maintenant, il y a deux royaumes. Il y a le royaume dans le nord qui s'appelle Israël ou Samarie. Et puis, il y a le royaume dans le sud qui s'appelle le royaume de Juda. Les choses ne vont pas aussi bien que ça, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans l'histoire, surtout d'Israël, où le peuple a vraiment tourné le dos à Dieu. Et ils sont partis faire le truc, adorer d'autres dieux, et les choses ne vont pas très bien. Par contre, en ce moment, au moins, ils sont en paix avec le pays voisin, juste au nord, qui est la Syrie. Et au moment de ces événements-là, donc il y a une sorte de paix qui est... c'est pas à 100%. Officiellement, les pays sont en paix, mais il y a toujours les petites incursions d'ici par là pour embêter l'autre. Et ce que nous allons faire, nous allons lire l'histoire, toute l'histoire, ensemble, et puis je vais revenir sur quelques versets pour voir ce que Dieu a envie de nous dire aujourd'hui. Donc, on est en Deux Rois, et verset 1 jusqu'au verset 17. Okay? Donc, si vous avez votre Bible, vous suivez, sinon ça va être projeté là. Donc, n'oubliez pas, on a Syrie, on a Samarie. Okay. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Alors, juste pour que vous sachiez, lorsque la Bible parle d'être lépreux, ce n'est pas forcément cette maladie-là, mais il y avait toute une gamme de maladies de peau qui avaient ce nom-là. Mais en tout cas, il était malade, très malade. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérira de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Alors, juste pour que vous sachiez, 70 kilos d'or, vous savez combien ça vaut aujourd'hui? J'ai vérifié hier, juste pour voir ce que ça fait. Ça fait presque 2,5 millions d'euros. Donc, c'est pas qu'il est venu avec un petit chèque de 100 euros pour voilà, si on peut s'arranger. Il est venu avec de l'argent. Et puis, l'argent, c'était à peu près 400 000 euros, D'accord? Donc il arrive avec presque, aujourd'hui, avec presque 3 millions d'euros pour un peu ouvrir le chemin. Juste au cas où on n'est plus en paix comme il pensait. Donc il arrive. Il arrive avec tout cet argent. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il voulait. Il voulait un petit, « Allez, j'arrive, je fais là, Dieu, viens, fais quelque chose, boum, c'est fait. » Voilà, ça c'est l'idée que Naaman avait en tête. Les fleuves de Damas, donc là d'où il vient, la Mana et le Parpa, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette, comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel que je sais est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Okay? C'est une histoire géniale. Il y a tellement de choses dedans que quand j'avais commencé ma préparation, je dis « mince, j'ai 3 heures de matériel là ». Donc ne vous inquiétez pas, je fais un peu le ménage dans ma préparation. Donc ça c'est notre histoire. Et ce qu'on va faire maintenant, on va juste reprendre quelques versets. Vous avez vu l'ensemble de l'histoire, donc vous savez où on allait. Mais il y a certaines choses qu'il faut souligner dans cette histoire. Alors si on revient au verset 2. Au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai du mal à lire ce verset aujourd'hui. Dans le passé, je pense que j'ai passé assez rapidement là-dedans pour arriver à la bonne partie de l'histoire où c'est Naaman qui est guéri. Mais vous savez, depuis ce qui s'est passé au Nigeria, avec les filles chrétiennes enlevées par Boko Haram, je ne lis plus ce verset de la même façon. Parce que je pense que j'ai pris conscience, peut-être pas totalement, de ce que ça veut dire d'être enlevée en tant que fille, petite fille, enlevée. Arrachée de la famille, arrachée de la communauté où tu as grandi, les gens qui partagent ta foi, les gens qui t'encouragent, les gens qui sont là pour vouloir ton bien. Et on fait de toi une esclave dans un pays, dans un endroit où ce n'est pas Dieu que tu vas adorer. Et c'est un verset maintenant qui... Ça pèse lourd avec moi. J'ai l'impression que je viens juste de me rendre compte vraiment de ce que ça veut dire. Donc on a une petite fille enlevée, esclave dans la maison de Naaman. C'est une expérience traumatisante. Je pense que vous seriez d'accord avec ça. C'est pas quelque chose de léger. C'est pas elle est partie en vacances. C'est pas elle avait le cœur de mission pour partir. C'est quelque chose de traumatisant. Et c'est ça qui rend sa réaction d'autant plus étonnante, en fait. Parce qu'un jour, verset 3, un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie. » Alors le prophète dont elle parle, c'est le prophète Élisée. Donc, on a déjà entendu les événements de la vie d'Élisée. Mais c'est Élisée. Donc, c'était quelqu'un connu pour le fait que la main de Dieu était sur lui, qu'il arrivait à faire les choses incroyables, les miracles, les prodiges. Et cette fille, elle sait, elle connaît la réputation d'Élisée et elle sait qu'il est capable de faire intervenir Dieu dans la vie de son maître. Et puis il y a Naaman qui répète ses propos au roi. Si je me pose la question, un enlèvement, c'est difficile à justifier quand même. C'est difficile à justifier. Dieu, est-ce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour parler à Naaman? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas. C'est le genre de question, on n'a pas de réponse. Parfois, il y a les choses qui se passent. Et on nous dit pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu... On n'a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là, sauf pour dire, je ne sais pas, mais je peux vous dire ce que je sais. C'est que les circonstances de vie de cette fille n'avaient en aucun cas affaibli sa confiance dans le Dieu qui non seulement pouvait agir, mais qui voulait agir, intervenir dans la vie de quelqu'un qui, a priori, n'avait rien à voir avec lui. Ce n'était pas du peuple d'Israël, c'était un Syrien, déjà. Mais cette fille, elle avait quand même confiance en Dieu. Je me dis, tiens, est-ce que moi j'aurais la même confiance dans une telle situation? Quand tout m'a été pris, tout a été enlevé, est-ce que moi je peux dire, oui, mais moi je connais un Dieu qui veut te faire du bien? C'est puissant comme témoignage. Et je pense que pour nous, ça, c'est le plus dur, parfois, de parler de la bonté de Dieu quand on se trouve dans une situation qui, pour nous, est compliquée. C'est un témoignage qui est difficile, mais ce qu'on voit dans cette histoire-là, que Dieu, il honore le témoignage de cette petite fille. Elle dit, moi, je crois que mon Dieu est comme ça. Et finalement, à la fin de l'histoire, on voit qu'elle a raison. Elle avait raison d'avoir confiance en Dieu parce que justement, il voulait intervenir dans la vie de cet homme-là. Mais ce que je trouve aussi étonnant, c'est que Naaman, il croit son esclave suffisamment bien, suffisamment fort, pour aller parler au roi de ce qu'elle a dit. Ce n'est pas son conseiller intime qui lui a dit ça, c'est une esclave de sa maison qui lui dit, mais moi j'ai la solution à ton problème. Et Naaman, il est suffisamment convaincu par la foi de la jeune fille qui dit, bon allez, je vais parler au roi de Syrie, on va voir ce qu'il dit. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la vie de cette petite fille qui donnait du poids à ce qu'elle disait. Ce n'était pas juste des paroles. Pourquoi est-ce que Naaman avait une bonne raison de croire ce que la fille lui disait? bah forcément, on voit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et Paul, l'apôtre Paul, il fait des remarques assez intéressantes par rapport aux esclaves. En Éphésiens 6, versets 5 et 6, Paul, il est en train de parler aux esclaves qui sont croyants. Il dit, vous esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Alors, donc, selon Paul, l'esclavage c'est une bonne chose. Ben non, bien sûr que non. Il dit ailleurs, en 1 Corinthiens 7, que si on est esclave et on peut devenir libre, de le faire. De le faire. Mais ce qu'il souligne, c'est peu importe vos circonstances, n'oubliez pas pour qui vous vivez et de qui vous êtes vraiment l'esclave. D'accord? N'oubliez pas pour qui vous vivez et de qui vous êtes vraiment l'esclave. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre témoignage, même quand vous vous trouvez dans des situations un peu compliquées. Parce que votre témoignage, ça va donner du poids à vos paroles. Votre témoignage, ce n'est pas simplement ce que vous dites, c'est votre façon d'être dans vos circonstances, que ces circonstances soient faciles ou difficiles. Et donc, cette jeune esclave, loin de chez elle, elle savait que contre toute évidence, que Dieu était toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. Et quand nous, on ne comprend pas la pensée de Dieu dans nos circonstances, des choses nous arrivent, on a du mal à justifier ça. On a du mal à dire, mais attends, mais je crois que Dieu était comme ça. Donc pourquoi il y a cette chose qui m'arrive ou qui arrive à quelqu'un d'autre. Quand on a du mal à réconcilier ce genre de choses, faut qu'on garde bien notre assurance que Dieu est toujours Dieu. Que Dieu est toujours Dieu. Même si sa pensée, sa façon de voir les choses nous échappe dans le moment présent. Parce que Dieu ne change pas. Donc Naaman, mais il avait aussi du mal à comprendre. Parfois nous on trouve ça difficile, mais Naaman aussi, parce qu'il prend les paroles de cette fille et il commence avec dans son parcours en allant rendre visite à la mauvaise personne. Parce que le roi de Syrie a écrit cette lettre-là. Mais la lettre, c'est pas à Élisée. La lettre, c'est au roi. Parce que ça se faisait comme ça dans le monde. On va voir le roi. Si on veut quelque chose, on va voir le roi. Et les conseils de la fille, aller voir l'homme de Dieu pour être guéri, ont été un peu transformés par son supérieur en aller voir le roi d'Israël pour être guéri. Et quand nous nous trouvons dans des situations difficiles, le monde fait toujours une tentative de détournement de Dieu. Pour que Dieu ne soit pas notre premier secours, pour que Dieu ne soit pas notre premier point d'appel. Souvent, il y a un tas de bonnes idées qui arrivent pour dire oh, « fais ceci, fais cela, fais cela ». Et en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est aller à Dieu. Et dans cette histoire, ça parle de l'homme de Dieu, l'homme qui avait les réponses de Dieu. Parce qu'on voit la réaction du roi, j'aime bien ça. Arrivé à Samarie, donc Naaman, il remit la lettre qui dit, voilà, je t'envoie mon général pour que tu le guérisses. Qu'est-ce que le roi fait? Verset 7, quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et il s'écria, est-ce que je suis Dieu? Qu'est-ce que je suis censé faire dans cette situation? Moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je suis censé faire? En plus, ça va me faire du mal parce que ça montre que le roi de Syrie, il me cherche quoi. Il veut redémarrer les soucis qu'on a eus entre nos deux pays parce que moi, il sait très bien que moi, je ne peux rien faire. Et donc, pour lui, ça va lui donner une raison de m'attaquer encore une fois. Et le problème, malheureusement, ce roi d'Israël, il s'appelle Yoram. C'est pas quelqu'un qui suit Dieu. Faut dire, il n'a pas eu le meilleur exemple non plus parce que ses parents étaient Achab et Jézabel. Donc, si vous connaissez un peu les histoires, vous savez que Achab et Jézabel, ce n'était pas les meilleurs modèles parentaux pour quelqu'un. Mais lui aussi, il a fait son choix de ne pas suivre Dieu. La Bible nous dit, en fait, c'est deux chapitres plus tôt que notre histoire ici, que c'était quelqu'un qui restait attaché au péché, même s'il faisait moins de mal que ses parents. Franchement, c'est pas grand-chose de faire moins de mal que ses parents, parce que ses parents étaient... Si vous l'avez jamais lu, les histoires d'Achab et Jézabel, pour savoir comment il ne faut pas vivre avec Dieu, voilà, vous avez des bons exemples en deux rois. Donc, on a ce roi-là, et c'est le roi de la moitié du peuple de Dieu. La moitié du peuple de Dieu. Là, on est censé avoir les réponses, là. Mais le problème avec lui, c'est qu'il est attaché au péché. Il est attaché. Il ne veut pas se séparer des choses qui sont déplaisantes à Dieu. Et le problème, c'est que son péché le laisse sans force et sans foi dans une situation compliquée. Imaginez si c'était un roi qui croyait dans la puissance de Dieu, qui croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. Si quelqu'un se présente à toi dans une situation comme ça, on peut dire, bah, écoute, moi je n'ai pas les réponses, non, je ne suis pas Dieu, mais je connais Dieu, moi j'ai quelque chose que je peux apporter là. Mais ce roi-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est, oh, catastrophe, ça va être la guerre. Ça, c'est sa réponse, parce qu'il n'a pas de foi, il n'a pas de confiance en Dieu. Et donc, je pense que le message pour nous ici dans cette situation-là, c'est si nous, on se trouve dans des situations compliquées, il ne faut pas aller chercher les solutions chez les gens qui sont attachés au péché, parce qu'ils n'ont rien à nous proposer. Ils n'ont rien à nous proposer. Ils n'ont pas la foi pour nous encourager. Ils n'ont pas la confiance en Dieu pour prier avec nous, pour chercher des solutions. Et ils n'ont pas, en général, de bons conseils non plus pour nous mettre dans la bonne direction. Donc, si vous vous trouvez dans une situation compliquée, ne cherchez pas la solution chez les gens qui sont attachés au péché. Ça ne va pas vous faire du bien. Ça ne va pas vous faire du bien. Bah, heureusement, dans cette histoire-là, il y a Élisée. Sinon, je sais pas ce qui aurait passé. Mais il y a Élisée, le prophète, l'homme de Dieu. Et lui, il entend que le roi est un peu consterné, on peut dire. Et donc, il envoie un messager pour dire, allez, bah, envoie-le chez moi et on verra. J'aime bien ça. Il saura qu'il y a un prophète en Samarie. J'aime sa confiance. C'est pas sa confiance en lui. C'est sa confiance en Dieu. Parce que c'est, ouais, il verra, il saura qui est mon Dieu. Il saura comment ça va se dérouler. Mais ce qui est intéressant chez Élisée, c'est que Dieu lui a déjà donné un peu de discernement dans cette situation-là. Et Élisée, il a déjà identifié quatre problèmes chez Naaman qu'il faut régler. Naaman, il pense qu'il vient pour être guéri. Mais Élisée sait qu'il y a autre chose en jeu. Et donc, oui, la guérison, oui, c'est là dans le package. Mais en fait, il y a beaucoup plus que Dieu veut faire dans la vie de Naaman. Donc, il identifie quatre problèmes. Et on voit par sa façon d'agir qu'au fur et à mesure, dans les étapes, il dit, bon, allez, on va régler ça, on va régler ça, on va régler ça. Et puis on va régler ça. Et ce sera selon la pensée de Dieu, qui n'est pas toujours notre pensée. Donc, premier problème que Élisée identifie. Naaman, il a un problème d'orgueil. Il a un problème d'orgueil. Quelque part, c'est naturel. On a lu tout au début que c'était un homme hautement estimé par le roi. Il a une position dans la société hyper élevée. On dit, bon, on n'est pas sûr, mais on dit qu'avec sa position de général de l'armée, probablement ça voulait dire qu'il était le premier ministre du roi. Donc c'est quelqu'un avec une position très élevée dans la société. Et il n'y avait rien, j'imagine, qui lui disait, bon, Naaman, tu te calmes un peu, tu n'es pas Dieu quand même. Mais Naaman, tout le monde lui dit, oh, mais formidable, merveilleux, général, tu gagnes, tu as les victoires. Donc, quelque part, c'est naturel que Naaman, il se croit bien. Il se croit un peu supérieur, si on est honnête. Un peu au-dessus des autres. Mais Élisée, il sait que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais qu'il donne grâce, il fait grâce, il accorde sa faveur aux humbles. Donc il sait très bien que pour Dieu puisse accorder sa faveur dans cette situation-là, Naaman, il a besoin d'apprendre un peu d'humilité. Sinon, ça va pas aller dans le bon sens. Et on voit ça, j'aime bien. Naaman, il vient avec son entourage. Donc on peut imaginer, voilà, le premier ministre, le général, il arrive, il a son char, il a ses chevaux, il a, voilà, son escorte, il a son garde personnel, il a ses gars avec le petit oreillette qui ouvre la voie, etc. Bon, peut-être pas en 850 ans avant Jésus-Christ, mais à l'époque, ce que je trouve super intéressant dans cette histoire, c'est à l'époque, quand vous rendez visite à quelqu'un, en fait, vous arrivez et la personne qui était inférieure niveau social venait vers la personne qui est supérieure. Et dans notre histoire, on voit que Naaman, il arrive devant la porte d'Élisée. Alors chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sonne. On dit, oh, coucou, je suis là, on entre. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. En fait, on arrivait et puis on attendait que la personne à l'intérieur, si on croyait que cette personne à l'intérieur était son inférieur, qui vienne vient vous voir, vient vous accueillir. Et puis, oh oui, descendez, entrez dans mon humble maison. Mais le problème, c'est que Naaman, il arrive et Élisée, il ne fait pas ça. Il sort même pas de sa maison, mais il envoie quelqu'un. Il dit, bon, lave-toi dans la rivière cette fois et voilà, ça ira. Et il y a Naaman, mais attends, je suis Naaman, je suis le général, je suis le premier ministre, je mérite au moins un petit bonjour. Mais Élisée, il sait très bien, il sait ce qu'il y a dans le cœur de Naaman. Il dit, non, 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 ça ne va pas se faire comme ça. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes qui tu es, où est ta place. Et voilà comment on va se commencer. Alors, c'est un peu rude comme leçon, mais ça se fait comme ça. Et donc, Naaman, il croit que tout lui est dû. Tout lui est dû. Moi, j'arrive comme ça. C'est normal que ça va se dérouler comme ça. Mais Élisée, c'est non, tu dois apprendre à respecter le Dieu que je représente. Tu dois apprendre à respecter. Et en fait, Dieu, il ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Et vous savez, parfois, nous, on vient à Dieu un peu comme ça. On vient avec une requête ou avec un besoin. Et même si on ne le dit pas, je connais personne qui le dit, mais même si on ne le dit pas, Dieu, tu me dois ça à cause de ce que j'ai fait, à ce que j'ai été pour toi, à comment je t'ai servi, à comment... Voilà. Parfois, on peut venir à Dieu en disant, allez, maintenant j'attends un peu le contrepartie. J'ai fait ça. Alors, maintenant, Dieu, tu agis. Et on ne doit jamais oublier que tout vient de Dieu par la grâce. Tout vient de Dieu par la grâce. Et que pour se méfier un peu de l'orgueil, parce que tout le monde, à un moment donné, peut passer par là. Ce n'est pas qu'il y a les orgueilleux et puis les autres. On a tous, moi, j'ai passé par là. Je passe par là de temps en temps, si on va être honnête. J'essaie de ne pas rester là. Mais on a tous, parfois, les circonstances qui nous donnent l'impression que, mais attends, mais Dieu, tu me dois ça. Voilà, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai donné pour toi. Alors, voilà, allez, un petit retour. On a besoin de se mettre dans cette situation de reconnaissance, que ça vienne par la grâce. Et en fait, la reconnaissance est une des meilleures armes pour contrer l'orgueil. Si on peut se mettre dans une situation de merci Dieu pour ceci, merci Dieu pour cela, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, ça nous rappelle en fait que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour contrer. C'est une sorte de sauvegarde, une protection pour nous contre l'orgueil, si on peut rester reconnaissant devant Dieu. Et puis, donc ça, c'est le premier problème, c'est l'orgueil. Donc voilà ce qu'est les effets pour essayer de remettre les choses à plat. Dans un deuxième temps, et c'est un peu dans une suite logique de cette histoire d'orgueil, Naaman, il aime que les choses se fassent comme lui, il veut, pour que ça lui convienne. Et bien sûr, ça c'est jamais nous. Mais Élisée, il sait que les voies de Dieu ne sont pas les voies d'homme, et que Dieu, il accomplit beaucoup si on répond, si on marche à sa manière, à lui, à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dire à quelqu'un de se baigner dans le Jourdain, quand ils viennent de Damas, c'est un peu comme si on dit à quelqu'un qui vit au bord du lac Annecy d'aller se laver, se purifier dans le canal de la Dole au port fluvial. Ça vous donne une... Ouais, d'accord. Logiquement, on va dire, mais attends, mais je viens d'Annecy. Allez, si je dois me baigner, je vais aller là-bas. Je vais me baigner dans le lac à Annecy parce que c'est beau et l'eau est beaucoup plus propre. Et donc, on peut imaginer un peu que Naaman, il soit un peu... Mais attends, je suis venue juste pour me baigner cette fois. Je peux faire ça chez moi, dans une situation qui est beaucoup plus près de chez moi, beaucoup plus agréable, beaucoup plus propre. Pourquoi ici, dans une rivière un peu boueuse, un peu... Ça ne va pas me laver, en tout cas. C'est un peu sa pensée. Il râle. Et nous, on ne râle jamais. En plus, on voit, il voulait le spectacle, le petit abracadabra, un truc instantané, comme ça. Et nous, on ne veut jamais ça, non plus. Je vois tout le monde qui fait. Oh, soyons honnêtes, quand on prie pour une guérison, je ne sais pas pour vous, moi je veux un truc boum, qui fait comme ça et on le voit. Et parfois, ce n'est pas comme ça. Parfois, c'est voilà, par étapes et on doit apprendre à être patient. Mais parfois, Dieu fait des choses comme ça. Il est bien capable de les faire. Mais ce n'est pas toujours son choix. Et donc, il y a Naaman. Il ne prend pas bien quand Dieu dit « Non, on ne va pas faire comme ça ». Parce qu'on a Naaman qui dit, verset 11, il dit, je pensais que, j'avais mes idées de comment ça allait se passer. Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel. Bah, déjà qu'il vient vers moi. Donc déjà il est dans son truc d'orgueil, là, qui vient vers moi, qui fait son truc. Qui passe sa main sur la partie qui est malade et que, boum, feu d'artifice, je suis guérie. Il dit, je pense que. Mais il y a un verset très intéressant en Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Parfois, on a besoin de se souvenir, de se rappeler de ça. Que le « je pense parfois, nos pensées vont accorder avec les pensées de Dieu. Parce qu'il nous rend grâce. Plus on devient comme Jésus, plus on aura la pensée de Christ. La Bible nous dit du fait que l'objectif, c'est qu'on ait la pensée du Christ. Mais on n'est pas toujours là, soyons honnêtes. Et Dieu, il est tellement, il est tellement infime dans sa sagesse. C'est quoi le mot infime? Bon, il a une sagesse infinie, on va le dire comme ça. Et on ne peut pas prétendre à tout comprendre. On ne peut pas comprendre à tout. Parce que si on comprend tout, ça veut dire qu'on connaît Dieu complètement. Et je peux vous assurer, ça ne va jamais se passer. Parce que Dieu, il est trop grand. Il est trop grand. Et donc, dans ce cas-là, ce cas précis de Naaman, pour régler l'ensemble des problèmes de Naaman, Dieu, il avait décidé qu'il fallait déjà une obéissance sur plusieurs étapes, donc rien d'instantané, sans aucune reconnaissance de sa situation de vie, pour qu'il puisse apprendre un peu d'humilité. Il lui fallait une épreuve de la foi dans un lieu qu'il n'aimait pas trop, qu'il considérait comme inférieur. Et sans, et ça c'est peut-être le plus difficile, sans aucune indication que Dieu était en train d'agir avant la fin de la dernière étape. Ça c'est dur. Lorsqu'on passe des épreuves et on prie, on dit je crois. On croit à la fidélité de Dieu, c'est pas qu'on ne croit pas, mais on ne voit pas Dieu à l'œuvre. Qui a déjà vécu une situation comme ça? Parce que moi, c'est oui. Donc, vous êtes, hein, il y en a certains. Vous ne voyez pas, vous dites, mais je crois, pourquoi je ne vois pas la fin? Pourquoi? Parce que voilà, il y a des choses qui se passent, mais je ne vois aucun changement, je ne vois rien qui change. Et imaginez, Naaman, à la troisième baignade, à la quatrième baignade, à la cinquième baignade, à la sixième baignade, et il n'y a rien qui change dans sa peau. Il n'y a rien qui change. Donc, pour lui, c'est... Qu'est-ce qui se passe? J'espérais au moins avoir un petit peu mieux à chaque fois. Mais non. Non. La Bible nous dit que c'était après la septième fois qu'il ressort et tout d'un coup, ça va mieux. Donc, Dieu nous appelle à persévérer. Même lorsqu'on n'a pas l'impression du tout de voir sa main, on n'a pas l'impression de voir qu'il est à l'œuvre dans des situations, c'est persévère, parce qu'on va y arriver. Parfois, c'est un peu long. Parfois, on se demande si la sixième couche de boue, si c'est vraiment ça qui va nous faire du bien. Mais Dieu, il est à l'œuvre et nous pouvons garder notre confiance en lui. Donc, ça, c'est donc les deux premiers problèmes. Alors, problème d'orgueil, problème de... je veux que ça me convienne, je veux que ça se fasse à ma façon, à moi. Troisième problème avec Naaman, c'est qu'il croit qu'on peut faire affaire avec Dieu. Il croit que, voilà, un peu de business, un peu de... Je vais venir avec mes 3 millions d'euros, mes kilos d'or. J'aimerais bien voir 70 kilos d'or. Ça doit être assez impressionnant quand même. Et il vient avec ça et il croit qu'il y a une sorte de... Voilà, on peut faire une sorte d'échange. Élisée, c'est que Dieu ne s'intéresse pas du tout aux propositions humaines de ce genre-là et que c'est la personne et sa foi qui intéressent à Dieu. Donc, vous pouvez proposer à Dieu tout ce que vous voulez en termes de biens matériels, en termes de... l'autre chose qu'on voit, c'est que Naaman croit... Bon, si ce n'est pas de l'argent, forcément, je peux faire un truc héroïque. Je peux, faire un grand exploit. Parce qu'on voit qu'il cherchait ça. Mais attends, je ne vais pas juste me baigner, quand même. Il faut qu'il y ait un grand exploit que je dois faire. Et donc, Naaman, il croit que soit on peut, en quelque sorte, acheter la faveur de Dieu, soit on peut mériter la faveur de Dieu à travers quelque chose qu'on a fait, en accomplissant un acte héroïque. Mais vous savez, Dieu, il ne cherche pas les cadeaux. Il ne cherche pas les cadeaux, il ne cherche pas les récompenses, il ne cherche pas les actes héroïques, comme ça. Il ne répond pas au pot de vin, c'est un Dieu juste, ni aux tentatives de chantage affectif. Je vais juste vous raconter quelque chose. Il y a très longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune et un peu moins sage qu'aujourd'hui, je me souviens d'une conversation que j'expliquais en fait à quelqu'un que voilà, j'étais dans une situation un peu compliquée comme ça et que je jeûnais pour avoir une réponse particulière dans cette situation-là. Et je parlais avec beaucoup de passion et beaucoup de « Allez, je jeûne et je jeûne et je jeûne. » Et puis ce chrétien très, très sage, heureusement, il m'a dit, il m'a repris en fait, très gentiment, mais il m'a repris, il m'a dit, fais attention, Sandy, à ta façon de t'approcher à Dieu. Parce qu'un jeûne n'est pas une grève de la faim. Et tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Tu ne peux pas dire, bah, ça va, je ne vais pas manger jusqu'à ce que... Ça, c'est une grève de la faim. Ça, c'est pas un jeûne. Ça, c'est une grève de la faim. Et Dieu, il ne répond pas au chantage. Comme ça. Un jeûne, justement, c'est pour s'approcher de Dieu, c'est pour se mettre dans une situation où Dieu peut nous parler. Mais ce n'est pas pour, je veux cette réponse-là et je ne vais pas manger jusqu'à ce que... Donc il faut qu'on fasse attention. Parce que c'est bien de jeûner. Moi, je jeûne de temps en temps. Mais c'est dans le but de m'approcher de Dieu. Ce n'est pas pour dire, je veux ça et je ne vais pas manger tant que... Je ne les ai pas. Donc voilà, ça c'est entre parenthèses. Mais Dieu, il ne répond pas à ce genre d'attitude parce que c'est par la grâce. C'est par la grâce qu'il nous répond. Et dans ce cas-là, Dieu, il demande une simple obéissance. Une simple obéissance. Et vous savez, l'obéissance en général, l'obéissance à Dieu, ce qu'il nous demande de faire, c'est rarement difficile sur le plan pratique. C'est rarement physiquement difficile. Si l'obéissance est difficile, en général, c'est parce qu'il y a un truc là. C'est parce qu'on ne veut pas, ou ça ne me va pas très bien, ou mais là, ça veut dire que je dois changer un peu mon emploi du temps. Mais c'est rare, je ne dis pas jamais, parce que parfois, Dieu, il peut nous demander des choses où ça peut être difficile. Mais très, très souvent, c'est une question d'attitude. Il s'agit de notre attitude dans l'obéissance. Et comme Naaman, nous avons besoin d'apprendre qu'il faut être obéissant dans les petites choses, les choses toutes simples que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas les actes héroïques, finalement, qui sont intéressants pour Dieu. C'est est-ce que les petites choses de tous les jours, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis obéissant dans les petites choses pour pouvoir ensuite voir Dieu se manifester dans ma vie? Donc ça, c'est le troisième problème, qui pense qu'on peut faire un peu de business avec Dieu. Ce n'est pas possible, Dieu ne marche pas comme ça. Et puis dans un quatrième temps, bien sûr, Naaman, il est malade dans son corps. Il a une maladie, soyons honnêtes, ça c'est la raison pour laquelle il est venu. Mais Élisée sait que Dieu va le guérir. Élisée, il n'a pas de doute là-dessus, mais il sait que la priorité de Dieu n'est pas la guérison physique. Parce que beaucoup plus important qu'une guérison physique par rapport à Dieu et sa pensée, c'est que Naaman le découvre. Et pour lui, ça prime. Dieu, il pouvait guérir comme ça, que Naaman repart guéri, mais Dieu, il ne se satisfait pas, il ne se contente pas d'une petite chose comme, pour lui, c'est vraiment une petite chose de la guérison, quand il y a des choses beaucoup plus profondes qui doivent être mises en œuvre en nous et qui doivent être changées et transformées en nous. Et Dieu, il ne veut pas se contenter de moins que le meilleur pour nous. Le problème, c'est que parfois, le meilleur pour nous, ça veut dire passer par les choses un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. Et donc, Naaman, il doit choisir, est-ce que je vais croire ou pas? Est-ce, finalement, ça revient à ça, dans cette histoire-là. Est-ce qu'il va croire lui-même? Parce que jusqu'à là, il agit sur la parole de la petite fille. Mais il arrive au moment, c'est bah, soit tu vas le faire quelque chose, parce que tu penses que ça va être efficace, parce que tu penses que Dieu va intervenir, soit non, tu rentres chez toi et bah, tant pis, ça n'a pas marché. Et finalement, il écoute le conseil de ses serviteurs. Et c'est maintenant qu'il commence à découvrir Dieu, qu'il commence à se dire, est-ce que je crois? Est-ce que je crois que quelque chose va se passer? Est-ce que je crois dans la puissance de ce Dieu? Est-ce que je crois que ce Dieu-là va faire quelque chose, qu'il est capable de faire quelque chose? Et il est guéri. Il le fait, il est guéri. Mais beaucoup plus que ça, il est profondément transformé en lui-même. Ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur qui change chez lui, c'est quelque chose d'intérieur qui change. Et à travers cette leçon d'humilité, Dieu se révèle. Dieu se révèle et Naaman, il apprend sa leçon d'humilité. Il apprend qui il est par rapport à Dieu. Qui il est. Et on voit ça très très bien parce que cette fois-ci, en rentrant, après sa guérison, il est allé au Jourdain. Élisée n'était pas là. C'était juste une obéissance aux paroles d'Élisée. Naaman, il revient. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il attend devant la porte? Je ne sais pas si vous avez vos Bibles là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut me dire? Il se présente devant lui, devant Élisée. Ça veut dire qu'il arrive chez Élisée et devant tout son entourage, il descend de son char, il tape à la porte, il entre, il dit « Élisée, me voici ». Donc déjà, quelque chose a changé en lui. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de reconnaître que le Dieu représenté par Élisée est plus grand que lui. Et ça, c'est une leçon essentielle pour Naaman. De plus, ce qu'on voit, c'est le verset 17. Je suis désolée, Pierre, je pense que je ne t'ai pas donné ça. En plus, ce n'est pas seulement ça, mais on voit aussi, ce n'est pas simplement que voilà, je reconnais l'homme de Dieu, voilà, représente un Dieu qui est plus grand que moi. Il dit, dorénavant, je ne vais pas servir un autre Dieu. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Donc, non seulement il a reconnu l'autorité d'Élisée, mais il a dit, maintenant, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Je prends ce Dieu comme mon Dieu. Je reconnais sa position, sa puissance, son autorité dans ma vie. Il n'y a plus rien qui va m'empêcher d'adorer, de louer ce Dieu-là. Je reconnais qui il est. Et vous savez que Dieu, il cherche les adorateurs. Il cherche, on sait très bien en Jean 4, on lit qu'il cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ce que Dieu a trouvé ici, il a cherché, il a trouvé un adorateur qui ne va pas faire autre chose, qui ne va pas louer Dieu autrement. C'est le sujet de mon adoration, ça va être Dieu. Et Dieu y répond à la foi. Il répond au témoignage des personnes. Il répond à notre confiance en lui dans les épreuves. Parfois, on doit attendre. Et il répond aussi à notre obéissance. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important qu'on fait des choses pour Dieu, parce que ça fait partie de notre vie de chrétien. qu'on vit pour Dieu. Ça veut dire forcément qu'on veut faire les exploits pour Dieu. Mais ce n'est pas à travers ces choses-là que Dieu va décider s'il va nous accorder sa faveur ou pas. C'est sa grâce qui tombe sur nous et ça tombe sur ses adorateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ici les chroniques de Narnia. Quelqu'un les a lues? Le figure de Jésus dans ces chroniques-là, c'est Aslan, c'est un lion. Et il y a un moment donné où quelqu'un demande à cette petite fille, Lucie, qui représente un peu le chrétien de tous les jours, dit mais est-ce que c'est un lion apprivoisé? Parce qu'il me fait peur. Et elle a dit, ah non. Aslan n'est pas un lion apprivoisé. Et notre Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas un lion apprivoisé. Ce n'est pas je fais ça, et puis voilà. Il répond comme ça. Ses pensées vont toujours dépasser notre compréhension des choses. Et parfois, ça, c'est très difficile pour nous d'accepter, de vivre dedans. Mais il faut qu'on tienne bon, parce que Dieu, il est aussi fidèle. Si on peut juste revenir sur le dernier verset, le Ésaïe 55, 8 et 9. Et on va terminer avec ça. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le contexte de ce verset-là, Dieu il est en train d'expliquer pourquoi il nous fait grâce quand on ne le mérite pas. Ce n'est pas un « moi je vais faire des trucs mystérieux » et voilà. Ce verset-là, c'est dans un contexte de salut et de grâce. Et il y a les gens du monde qui disent, oui, lui, il ne mérite pas, lui, il ne mérite pas, lui, il ne mérite pas. Et Dieu dit, mais mes pensées sont au-delà de vos pensées. Vous ne voyez pas les raisons qui expliquent pourquoi j'agis comme j'agis parfois. Mais mon désir, c'est de faire grâce à ceux qui ne le méritent pas. Et ça, c'est le contexte. Mes voix sont au-dessus. De vos voix. Et autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes passés sont élevés au-dessus des vôtres. Parfois, on ne va pas comprendre, mais on peut avoir confiance que parfois, quand on ne comprend pas, que Dieu, il agit dans la grâce envers nous. Et sa pensée, même quand on ne le comprend pas, c'est une pensée d'amour pour nous. Et ça, c'est quelque chose, on peut s'accrocher à ça quand c'est difficile, quand on ne le comprend pas. Parce que Dieu, il a décidé qu'il va nous rendre grâce et il est fidèle à lui-même. Même si on ne comprend pas. Et c'est vraiment cette pensée-là, je veux vous laisser avec ça. On a besoin de vérifier notre niveau d'orgueil. Est-ce qu'on a besoin de s'humilier? On a besoin de réfléchir un peu à notre façon de nous approcher de Dieu pour dire est-ce que je m'approche à Dieu avec la bonne attitude. Mais on peut avoir assurance que Dieu il va honorer à la fin notre témoignage et que quand on ne voit pas l'action de Dieu à l'étape 2, ne vous inquiétez pas parce qu'à l'étape 7, Dans le bon timing de Dieu, le bon délai de Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut se lever? Alors, quelque part, nous avons déjà répondu à l'appel avant, dans la louange, avec ce que Fred a partagé là. Parce qu'on a dit, sonde-moi. Donc, on ne va pas le refaire maintenant. J'ai juste une chose à cœur, là. C'est que on demande à Dieu de nous révéler sa pensée pour nous aider à rester confiants dans l'épreuve, afin de pouvoir apporter un soutien à ceux qui sont dans l'épreuve et qui viennent vers nous pour dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse être plus comme Élisée, que le roi Joram, qui n'avait rien à proposer. Et on est tous dans ces cas-là. On passe tous, dans les deux cas, on passe par les épreuves nous-mêmes et on a aussi les gens qui viennent vers nous. Il faut dire, qu'est-ce que je peux faire? On veut donner du bon conseil. On veut être utile aux gens autour de nous. Donc on va juste prendre un instant pour demander la pensée de Dieu. On ne va jamais tout comprendre parce que Dieu, il est trop grand pour ça. Mais Dieu, par sa grâce, nous révèle quelque chose de lui-même quand on vient vers lui. Seigneur.